Il souhaitait être affecté sur le territoire. Le général Aouchine succède au général Mateos à la tête de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. La passation de commandement se déroulait hier à Dimbéa. En Algérie, Boualem Sansal ne se pourvoira pas en cassation. La grâce présidentielle n'est pas intervenue hier. L'écrivain renonce après avoir été condamné à 5 ans d'emprisonnement par le régime d'Alger. En Ukraine, l'espoir d'un accord de paix s'éloigne. Donald Trump se dit mécontent de son dernier coup de fil avec Vladimir Poutine. Nouvelle affaire de drogue en Australie. 3 individus arrêtés à Sydney pour un trafic de méthamphétamine. Ils avaient dissimulé la drogue dans des carreaux de mosaïque. À Nouméa, dernier jour pour le salon floralier et jardinage, le grand rendez-vous des amoureux des plantes à la Maison des Artisans, route de Nouville. Le sport, au mini-jeu du Pacifique, 2 nouvelles médailles pour les Calédoniens dans les eaux de Palau. Hier, nos nageurs ont encore terminé sur les podiums. Et puis le football, Paris qui rejoint les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG a battu le Bayern Munich 2-0. Bonjour et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. La passation de pouvoir à la tête des forces de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie se déroulait hier matin. Le général de division Nicolas Mateos est arrivé à la fin de son affectation et c'est le général Aouchine qui a pris officiellement ses fonctions ce samedi lors d'une cérémonie organisée à Dimbéa. Le général François Aouchine est âgé de 53 ans et il a souhaité venir en Calédonie. On l'écoute.
Mon parcours est très simple. Je suis issu d'une famille de militaires, un lycée militaire, un parcours de sous-officier en gendarmerie. D'abord appelé du contingent, sous-officier en gendarmerie, officier. Et puis après des fonctions de commandement, pour commander le groupement ou le département du Cher, ou bien conseiller auprès de Monsieur Laurent Nunez, préfet de police à Paris, jusqu'à très peu de temps. J'ai une maman martiniquaise, j'ai un papa militaire de carrière. Donc forcément, j'ai vu du pays, mais oui, je suis d'origine martiniquaise et ardennaise. Donc j'ai les deux pieds dans deux sabots bien différents. Mais bien solide. Je suis déjà très heureux d'avoir pu atterrir en Nouvelle-Calédonie. C'était vraiment un choix. C'est une île qui m'appelle, que je trouve vraiment intéressante. Pour tout le reste, eh bien, je vais succéder à Nicolas Mateos. Donc c'est une vraie transmission. On s'inscrit dans la continuité. On essaye de travailler le temps long. Voilà ce qui m'importe. Je vais d'abord prendre le temps d'écouter. Je ne suis pas venu avec des plans tout prêts. Hein. Écouter, regarder, écouter mon organisation, mon état-major, rencontrer les gens et puis après on se posera les bonnes questions.
Après un commandement marqué notamment par la crise insurrectionnelle de 2024 sans précédent, le général Mateos a donc passé le flambeau. La prise de commandement se déroulait à l'hôtel de ville de Dimbéa en présence du général Poti, commandant de la gendarmerie d'outre-mer. Une passation de pouvoir riche en symboles selon lui.
C'est une tradition, mais c'est rarissime qu'on puisse avoir une passation de commandement. D'habitude, on a une prise de commandement, c'est-à-dire que le nouveau chef est là seul. Là, on a l'ancien et le nouveau. Et on a tenu à faire ce symbole qui nous paraissait important, de manière à bien symboliser la transmission entre l'ancien et le nouveau, mais aussi la transmission entre les événements qui ont pu se produire et puis peut-être l'avenir de la Calédonie pour dire, on tourne une nouvelle page. Et cette nouvelle page, elle passe aussi par un nouveau comme Chand qui arrive en Nouvelle-Calédonie, selon les traditions habituelles, c'est-à-dire en gros, tous les 3 ans, on change de chef. Mais voilà, ici, symboliquement, ça me paraissait important de le faire dans le milieu ouvert, pas dans l'intimité d'une caserne, à la vue de tout le monde, que tout le monde puisse éventuellement y participer, y assister. Le symbole, pour moi, était particulièrement fort. Enfin, la mission, elle ne change pas. Hein. Nous, on a une mission de sécurité, de tranquillité publique. Je pense qu'une des caractéristiques de la gendarmerie, c'est quand même qu'on parle à tout le monde, on est, je pense, respecté par tout le monde, on essaie d'avoir une position d'équilibre. Et le nouveau comme Jean, l'avantage, c'est qu'il n'a pas connu les événements. Je pense que c'est un avantage parce qu'il vient sans a priori aucun sur ce qui s'est passé auparavant. Et toujours dans le même esprit d'apaisement, d'essayer de trouver des solutions pour la paix et la tranquillité de tout le monde, quelles que soient ses origines, sa religion, ses convictions, son histoire. Voilà, on est là pour tout le monde.
La prise de commandement se déroulait en présence des autorités civiles, militaires et coutumières. Un moment fort en émotion, alors que les émeutes de 2024 ont mis plus que jamais en avant le rôle des gendarmes dans leur mission de maintien de l'ordre public et d'aide à la population. Alors, sous la direction du général Mateos, arrivé donc au terme de son affectation. Notez que durant la cérémonie de prise de commandement, des décorations ont été remises à plusieurs officiers et sous-officiers pour leurs différentes actions menées durant les émeutes et les violences de 2024 au profit du maintien de la paix. L'actualité nationale avec une manifestation encore en cours aux abords du chantier de l'A69, l'autoroute qui doit relier Castres à Toulouse. Les opposants au projet ont annoncé un week-end de mobilisation. Les forces de l'ordre redoutent la présence d'individus radicalisés au milieu du cortège. Manifestation donc encore en cours. Marion Bongrand pour Europe 1.
Des centaines d'opposants à la 509 sont sortis du périmètre privé du château de Scopon sur la route nationale barrée en amont sur plusieurs kilomètres par arrêté préfectoral. Dans un premier temps, on a entendu des chants. Ils ont aussi érigé des banderoles contre la 69 et on a vu des drapeaux palestiniens dans la foule. Certains individus masqués ont ensuite tenté de rejoindre le tracé de la future autoroute quelques dizaines de mètres plus haut. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des échanges de tirs de projectiles des manifestants vers les forces de l'ordre et les gendarmes ont répliqué par des tirs de lacrymogènes pour disperser la foule et surtout les dissuader de trop s'avancer vers le chantier d'un pont où devrait passer la future autoroute. Et puis après une grosse demi-heure de tension, retour au calme, les opposants ont manifesté de manière plus festive avec une fanfare, des chants, des applaudissements. Et là, de nouveau, depuis quelques minutes, ça se tend, les manifestants tentent de s'approcher du tracé de l'autoroute. Ils jouent à 1, 2, 3 soleils en direction de la ligne des forces de l'ordre. Elle reste vigilante et il y a des renforts qui viennent d'arriver sur place.
Marion Bongrand pour Europe 1. Le face-à-face tendu se poursuit donc entre forces de l'ordre et manifestants. Une cinquantaine d'individus fichés S ont été identifiés au sein de cette manifestation.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Bouraï, c'est le 99.
Une condamnation définitive pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal qui n'ira pas en cassation face à la justice algérienne. L'homme de lettres, âgé de 80 ans, dit renoncer compte tenu de l'état de la justice en Algérie, selon ses proches. Alors que la grâce présidentielle n'est pas intervenue lors de l'anniversaire de l'indépendance du pays, pas encore de réaction de l'exécutif français, mais la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, n'a pas hésité à exprimer sa colère.
Aujourd'hui, force est de constater que ce processus, il est au point mort pour Boualem Sansal depuis 231 jours. Et je crois qu'il est vraiment urgent de changer de paradigme. Le président de la République était allé jusqu'à dire qu'il croyait en la clairvoyance du président Tebboune. Mais force est de constater qu'on a affaire à un régime paranoïaque qui confond critique du régime ou même opinion sur le régime avec de la trahison. Tous les prétextes sont bons pour humilier la France. Et je note aussi que ce 5 juillet est aussi une date extrêmement triste parce que c'est aussi le jour du massacre de presque 1000 Français à Oran, au Petit Lac, le jour de l'indépendance dans l'indifférence politique générale puisqu'on ne parle jamais de ces victimes. Moi, je pense à elles aujourd'hui.
Le romancier et essayiste Boualem Sansal est emprisonné depuis plus de 7 mois par le régime d'Alger. Il a été condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale après avoir critiqué ouvertement le régime d'Alger.
À Radio Rythme Bleu, 7h08.
À l'international encore, le conflit russo-ukrainien. Deux jours après l'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, la liaison entre les deux chefs d'État semble brouillée. Moscou estime qu'il n'est pas possible pour l'instant d'atteindre ses objectifs en Ukraine par la voie diplomatique et refuse donc pour l'heure un cessez-le-feu. Une réaction qui n'a pas du tout plu au président américain Donald Trump. Décryptage d'Antoine Bienveau pour Europe 1.
À tel point que le président américain menace son homologue russe de nouvelles sanctions en cas d'absence de progrès en vue d'un cessez-le-feu. Une menace qui ne semble pour l'heure pas effrayer le Kremlin qui a mené quelques heures seulement après cet appel son attaque de drone la plus massive sur l'Ukraine depuis 2022. De nouveaux bombardements russes ont aussi fait au moins 2 morts la nuit dernière. Donald Trump estime que Vladimir Poutine veut aller jusqu'au bout et juste continuer à tuer des gens, ce sont ses mots. Les attaques des deux derniers jours ont été dénoncées évidemment par Volodymyr Zelensky qui de son côté affirme avoir eu une discussion approfondie avec Donald Trump pour renforcer la sécurité militaire de l'Ukraine.
Les explications d'Antoine Bienveau du service politique d'Europe 1. À l'actualité régionale, en Australie, 3 individus ont été arrêtés par la police fédérale dans le cadre d'une affaire de méthamphétamine. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La drogue avait été imprégnée dans des carreaux de mosaïque, lesquels avaient ensuite été emballés dans des caisses au Moyen-Orient. À son arrivée à Sydney, la dite cargaison a toutefois attiré l'attention des agents de la police aux frontières qui ont prévenu leurs collègues de la police fédérale. Ceux-ci ont procédé à l'extraction de 360 kg de méthamphétamine, d'une valeur à la revente estimée à environ 22 milliards de nos francs, avant de replacer les carreaux de mosaïque dans leurs caisses et de les livrer à l'entrepôt de Sydney, chargé de les réceptionner. 3 personnes ont été arrêtées alors qu'elles en prenaient possession. Toutes 3 ont été inculpées pour trafic de stupéfiants, un crime passible de la prison à vie. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 7h passé de 10 minutes, une pause publicitaire dans ce journal avant de revenir à l'actualité calédonienne. À tout de suite.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Michael Juneski.
L'actualité calédonienne en métropole. On rappelle que les négociations politiques se poursuivent à l'hôtel Hilton de Bougival, en région parisienne, concernant l'avenir institutionnel, où les délégations des partenaires calédoniens se sont retrouvées pour le sommet sur la Nouvelle-Calédonie. Un rendez-vous qui continue donc tout le week-end, au moins sans échéance prédéterminée. Pour le moment, aucune des délégations n'a quitté la table des discussions, des échanges, on le rappelle, qui se déroulent à huis clos. Le trafic aérien à l'international est encore perturbé ce week-end. Deux problèmes distincts se posent pour la compagnie Air Calédonie International, Léo Fichot.
Un avion d'Air Calin est en panne. La pièce est en cours d'acheminement depuis l'étranger. Une réparation qui est prévue en fin de journée. Ce dimanche, les nouveaux horaires de vol et les itinéraires seront confirmés au cours de la journée, signale la compagnie sur son site internet. Je rappelle que les vols SB500 Nouméa-Bangkok-Paris et SB501 Paris-Bangkok-Nouméa prévus hier ont été annulés. Air Calin explique également sur son site qu'en raison des conditions météorologiques défavorables de ces derniers jours, la rotation Nouméa-Port-Vila-Nouméa du 4 juillet opérée par Air Calédonie a été annulée. Une rotation spéciale est prévue ce mardi. Départ de Tontouta à destination de Port-Vila à 15h, puis départ de Port-Vila à destination de Tontouta à 17h30.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Le salon Floralie et Jardinage se poursuit à la Maison des Artisans ce dimanche. Ce nouveau rendez-vous est un incontournable pour les passionnés de nature et de plantes. Il est organisé par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat. Une quarantaine d'exposants proposent plantes, outillages et conseils personnalisés. Une ambiance conviviale que semblent apprécier les visiteurs.
Admirer les plantes et puis les plantes avec des fleurs en particulier, style bougainvillier, etc.
Plutôt hibiscus, rosier, des petites plantes à mettre dans le jardin, histoire de diversifier un petit peu.
Un petit rayon de soleil, on en profite. Et puis, il y a vraiment toutes sortes de plantes à fleurs, des beaux palmiers. On a vu de jolies broméliacées, quelques plantes aromatiques. Puis, il y a plein de petites choses à manger, des petits stands. C'est sympa.
Un petit moment de détente, un petit moment de bonheur avec du soleil, pas mal de plantes, des personnes agréables, de la couleur. Parfait pour ce qu'il nous faut en ce moment.
Le salon Floralie et Jardinage se poursuit donc de 8h30 à 16h à la Maison des Artisans à Nouville. Toujours à Nouméa, la troisième édition du Tropical Market se poursuit aussi aujourd'hui au Quai Ferry. Une cinquantaine d'artisans locaux y présentent leur création dans une ambiance conviviale. Axel de France.
Bijoux faits main, sculptures, produits cosmétiques ou encore animations musicales, le marché propose un large éventail de stands pour les visiteurs. Marion Allegro, organisatrice de l'événement, nous explique l'objectif de cette initiative.
On a vraiment deux thèmes. Donc, l'idée, c'est de faire travailler en fait autant les commerçants des quais que nous, les artisans, qui n'ont pas forcément de lieu fixe, mais aussi pouvoir dynamiser un endroit qui n'est pas forcément ultra visible quand on passe en centre-ville. Et surtout, c'est un lieu qui vaut le coup d'être visité. C'est important parce qu'on est quand même sur une année qui est un petit peu plus délicate, où on a besoin en fait d'apporter plus de renouveau et de changement. Et c'est vrai que faire un événement avec un mix de tout peut permettre en fait ce changement et faire travailler tout le monde.
Les visiteurs ont pu déambuler seuls ou en famille entre les stands pour profiter des produits variés, de l'ambiance et du savoir-faire local.
On a profité du retour du soleil pour venir voir un peu d'animation sur le Quai Ferry, voir les exposants, donc profiter des produits locaux proposés avec des couleurs, des choses intéressantes pour des idées cadeaux. Donc on prend le temps de flâner et d'apprécier la qualité de l'artisanat local.
Je trouve que c'est une bonne initiative au niveau du Quai Ferry parce que ça change d'endroit déjà. C'est plus calme et puis on peut s'asseoir, boire un café, prendre un chocolat, manger quelque chose. C'est au bord de la mer, c'est génial. J'ai pu acheter un puzzle, faire du maquillage à ma fille, du château gonflable aussi, il y a de l'animation, c'est très bien.
Le Tropical Market se poursuit ce dimanche de 9h à 14h au Quai Ferry de Nouméa.
Et encore des sorties aujourd'hui et toujours à Nouméa, place au traditionnel vide-grenier de la ville, sur la place des Cocotiers, comme tous les premiers dimanches du mois, jusqu'à 12h30. Pas moins de 250 stands sont installés. Et puis sur la côte Est, la fête de la mandarine continue à Canala. Ce week-end, c'est la 24e édition de cette fête devenue traditionnelle dans la commune. Elle s'achèvera donc ce soir. 7h passées de 15 minutes. Une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actu sport.
Jusqu'au vendredi 25 juillet, gagnez un séjour à l'hôtel Le Stanley. Logez une semaine, ensuite Ylang Ylang. Petit déjeuner inclus pour deux personnes offert par l'hôtel Le Stanley. Un cadeau d'une valeur de 242 200 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 25 juillet à 14h. 371 francs le SMS. Profitez d'un endroit calme, proche de la ville, à l'hôtel Le Stanley. L'hôtel vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres et suites climatisées et tout équipées. Profitez aussi de la piscine, d'une vue imprenable sur le lagon et des petits déjeuners. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel, téléphone 23 23 23. Pour jouer, envoyez chance au 40-20. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Mickaël Juneski.
Et direction Palau pour les mini-jeux du Pacifique.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Une sixième journée hier avec deux nouvelles médailles pour la délégation calédonienne. L'occasion de faire un bilan à mi-parcours, Léo Fichot.
Et à mi-parcours, les Cagous ont décroché 22 médailles. La dernière en date, celle des nageurs sur le relais 4 x 1250 mètres en eau libre. C'était en fin d'après-midi. Hier, Clara Delunel, Camille Jarcé, Yaron Nodanche et Luc Mercier ont terminé deuxième derrière Tahiti et juste devant les Samoas. Juste avant cette course, Luc Mercier était déjà monté sur le podium, sur la troisième marche du podium. C'était sur le 5000 mètres en eau libre, là aussi. Il était devancé cette fois par deux Tahitiens. Le Calédonien était tout de même très fier de sa performance.
Cette course, on l'a fait en groupe de trois, du coup, avec les Tahitiens. C'est parti assez vite. Ensuite, on s'est quand même, on a bien posé la nage. Là, c'était un petit peu au mental. Il ne fallait pas lâcher le groupe. Et puis après, bah, dernier 200 mètres, ça s'est fait au sprint. Bon, malheureusement, à la touche, j'arrive troisième derrière le Tahitien, le deuxième Tahitien. Mais bon, je suis content de ma course, je suis super content de ce que j'ai fait. Bah, dommage pour la dernière petite action, mais la médaille, je suis déjà super heureux.
Autre belle performance, celle de Jeremia Ngodrella. Il s'est qualifié pour la finale du 400 mètres en réalisant le troisième temps des séries. Finale prévue demain soir. On notera sur le 100 mètres hier toujours Nicolas Cazareru qui n'a pas réussi lui à se hisser en finale. Il a réalisé le 9e temps des demi-finales. Il n'y a donc pas eu que des bonnes nouvelles côté Cagou. En volée, les garçons se sont inclinés 3-7-0 contre Tahiti hier et sont donc éliminés de la compétition. Écoutez Rimana Li, pivot de la sélection calédonienne.
Selon moi, je trouve que on a trop pris ce match à cœur parce que je pense que pour la plupart, on attendait tout ce match. Et puis voilà, arrivé au moment, ben, on s'est stressé bêtement et on a fait un peu n'importe quoi dans le terrain.
Reimana Li, non pas pivot, mais libéraux de la sélection calédonienne. Même chose pour les beach volleyeuses. Smaïn Mampas et Goïmel Ouedré apprenaient, elles, à jouer ensemble dans l'optique des Jeux du Pacifique à Tahiti dans 2 ans. Elles sont éliminées après avoir perdu hier contre les Fidji. Et donc, après 6 journées, la délégation calédonienne, je le disais, compte 22 médailles, 5 en or, 4 en argent, 13 en bronze. Les Cagous sont 7e du classement, largement dominé par Tahiti. Un bilan tout de même très positif pour Marion Romagne, chef de mission.
C'est un bilan très positif parce qu'on ne s'attendait pas à faire autant de médailles, surtout en natation, 3 médailles d'or, 1 en tennis de table, 1 médaille en 100 mètres. Donc, pas mal de médailles non prévues. C'est une satisfaction. Et derrière, on a des médailles d'argent, beaucoup de médailles de bronze aussi. Donc, bilan positif pour cette première semaine. L'organisation nous a émis des contraintes d'athlètes jeunes avec des U19, des U23, des U18. Tout est positif parce que les jeunes se sont bien comportés. Mon souhait, c'était qu'ils reviennent des étoiles plein les yeux. Et je pense que ça sera le cas parce que beaucoup de jeunes ont gagné des médailles et des médailles importantes, comme je disais tout à l'heure, la natation. Par exemple, ils sont hyper heureux, ces jeunes-là, et c'est plein de promesses pour l'avenir, quoi.
Et l'avenir, avant de voir les Jeux du Pacifique à Tahiti dans 2 ans, passe aussi par le triathlon. Les triathlètes sont arrivés hier soir à Palau. 4 sportifs déterminés à continuer la moisson de médailles puisque tout juste descendu de l'avion. Mélanie Ali, Clémence Besson-Lot, Timothée Hérault et Mathieu Salamacha étaient déjà à l'entraînement dans les bassins de Koror avant une session sur piste et sur site prévue ce matin. La compétition en triathlon, c'est demain pour eux. Ce dimanche, c'est repos pour la délégation calédonienne.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raze automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Kone et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Les sports sur la scène internationale et une bonne nouvelle en football pour le Paris Saint-Germain. Les joueurs du club de la capitale sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs, Léo.
Après un match très difficile et intense contre un adversaire de taille, le Bayern Munich, les Parisiens ont décroché leur billet pour le dernier carré de la compétition. Victoire 2-0 grâce à Désiré Doué à la 78e et Ousmane Dembélé au bout du temps additionnel. On signalera tout de même les expulsions côté PSG de William Pachot et de Lucas Hernandez. En demi-finale, les Parisiens pourrait retrouver un certain Kylian Mbappé. Le Real Madrid affronte en ce moment en quart de finale le Borussia Dortmund et c'est plutôt bien parti pour les Madrilènes puisqu'ils mènent 2-0 après 21 minutes de jeu.
Allez, du football toujours avec l'Euro féminin cette fois qui débute pour l'équipe de France. Les tricolores sont opposés à l'Angleterre en ce moment même lors des phases de poule. Elles affronteront également le Pays de Galles et les Pays-Bas. Face aux Anglaises, les Bleus qui ont pris l'avantage 2-0 à l'heure de jeu. On passe au rugby et malheureusement pas d'exploit français hier soir en terre néo-zélandaise.
Les Bleus ont tout de même tenu tête aux All Blacks, mais se sont finalement inclinés 31-27. Une défaite pleine d'espoir pour ce jeune 15 de France, une équipe largement remaniée. On le rappelle, il y avait 8 nouveaux autour du capitaine Gaël Ficou. Écoutez, le sélectionneur Fabien Galthié, il était tout de même fier de ses joueurs.
Les joueurs y croient, les joueurs croient en leur chance, les joueurs croient en eux. Il faut vraiment tirer un gros coup de chapeau aux joueurs et à l'équipe hein, et au staff qui a préparé ce match, mais on n'a pas terminé, il nous reste un match à jouer maintenant à Wellington et on va se préparer, on va se tourner vers ce second rendez-vous.
Un match à Wellington prévu samedi prochain avant un dernier rendez-vous encore une fois face aux All Blacks, ce sera le samedi 19 du côté d'Hamilton.
On passe au cyclisme avec le début du Tour de France.
Air Calin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Le début de la grande boucle, première étape longue de 184 km à Lille qui a été remportée par le Belge Jasper Philipsen au sprint. L'équipe Cofidis du Français Benjamin Thomas basée dans la région de Lille surtout s'est emparée du maillot à pois. Le reportage de Charles Bouchin d'Europe 1.
Et c'était un objectif pour l'équipe nordiste ce matin, montrer le maillot sur ses terres à l'avant du peloton et tenter de décrocher la tunique à pois rouge que les fans adorent. Et c'est Benjamin Thomas, l'expérimenté rouleur qui s'y est collé. Le Français est parti dans plusieurs échappées pour prendre 2 petits points sur 3 distribués au classement de la montagne, suffisant donc pour prendre le maillot à pois. Et forcément, il y avait beaucoup de joie à l'arrivée.
C'est un rêve, c'est mon premier maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de France, c'est un rêve quoi, c'est un maillot mythique.
On l'avait défini au briefing, j'avais carte blanche et même l'équipe m'a motivé à aller dans cette échappée.
Des échappées où il a dû batailler avec d'autres Français, notamment Mathéo Verchet, avec qui il s'est empoigné au sommet du Mont Cassel. Et c'est l'une des images de cette première étape. Les deux hommes au coude à coude sur des pavés jusqu'à la ligne. Benjamin Thomas s'impose et prend un point avant de tomber et d'emporter au passage son compatriote. Chute sans conséquence pour lui, il va désormais tout faire pour conserver son maillot à pois rouge le plus longtemps possible et au moins pour les 2 prochaines étapes à domicile dans le Nord-Pas-de-Calais.
Un reportage de Charles Bouchin d'Europe 1. On passe au tennis. À Wimbledon, on connaît les premières affiches des 8e de finale. Yannick Sinner, l'Italien numéro 1 mondial, sera opposé à Grigor Dimitrov. Carlos Alcaraz, l'Espagnol, affrontera lui le Russe Andrei Rublev. Enfin, Novak Djokovic, 7 fois vainqueur du tournoi londonien, sera opposé à l'Australien Alex De Minaur. Chez les dames, c'est l'hécatombe Marina Sabalenka, numéro 1 mondiale, jouera contre Elise Mertens. Duel aussi entre la jeune Mira Andreeva et l'américaine Emma Navarro. On passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La F1 avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, et c'est une petite surprise, Max Verstappen a décroché la pole position, Léo Fichot.
Le pilote Red Bull a dominé les qualifications et s'élancera donc en pole ce soir. Derrière, on retrouve les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris, puis deux autres britanniques, George Russell sur Mercedes et Lewis Hamilton sur Ferrari. Charles Leclerc est 6e, Fernando Alonso 7e. Ensuite, là c'est une vraie surprise, on retrouve le Français Pierre Gasly, 8e sur la grille. Écoutez la satisfaction du pilote alpine.
Comme on dit, impossible n'est pas français, mais très clairement, on s'attendait à limite se retrouver avec les deux voitures en dernière ligne. Donc on a changé quelques réglages sur la voiture avant la qualif qui sont vraiment allés dans le bon sens. Et après, je pense qu'on a, on a tous fait vraiment un super travail de la Q1 à la Q3. Donc c'est vraiment inespéré, je suis vraiment très content. Et surtout très content pour l'équipe parce que ça a été un week-end plus que difficile depuis qu'on est arrivé.
Pierre Gasly 8e, Isaac Hadjar sur Racing Bulls 12e, Esteban Ocon 14e. Le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone sera donné à 1h la nuit prochaine.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
On termine avec le sport en Nouvelle-Calédonie avec des résultats et des événements à venir, Léo Fichot.
En football, d'abord, pas de changement au classement. Il y a eu pas mal de buts, on va le signaler, hier lors de la 7e journée de Super League. Dans le groupe A, le leader Tiga a battu Yengen 3-0. Horizon Passo a écrasé le Mondor 5-0. Dans le groupe B, match nul de partout entre l'AS Magenta, le leader, et son dauphin, l'AS Cougnier. Le SC Nejeu a largement dominé le CA Saint-Louis 4-0. Dans l'eau, la deuxième manche de la Coupe de Calédonie de surf à Bouraille a livré ses premiers podiums hier. Anaïs Lévesque s'est imposée en shortboard ondine devant Nathalie Sinedrawa et Clémentine Tapia. En shortboard open, victoire de Jean-Denis Yag devant Stéphane Chrétien et Nathaël Lévesque. La compétition continue ce dimanche sur la plage de la Roche-Percée à Bouraille. Sur l'eau toujours, le Cercle Nautique Calédonien a organisé hier deux régates. Le matin, les jeunes étaient à l'honneur. Victoire de Timothée et Ethan en RS Feva et de Martin et Félix en 29er. L'après-midi, en BD Citron, c'est l'équipage Rasta Rocket qui a dominé la régate. Et puis, direction le Nord. Maintenant, puisque Kone accueille ce week-end le championnat de Nouvelle-Calédonie de badminton. Hier, en double mixte, Morgan Paitio et Jonat Kou se sont imposés sur Tommy Sargito et Lauren Ben Lausin. La compétition continue là aussi aujourd'hui.
Et puis, un rendez-vous à venir également en cyclisme. Aujourd'hui, à Nouméa, le prix de l'ECV, l'école calédonienne de vélo. Au programme d'ici quelques minutes, un contre-la-montre dans les pentes du Wentoro, puis un critérium dans le quartier de l'Artillerie. 7h passée de 28 minutes, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Une météo que vous nous détaillez, Thierry, bonjour.
Bonjour Mickaël. Ce matin, un voile de nuages altitude gagne le nord de la Grande Terre. Quelques nuages bas circuleront sur les autres régions sans donner de précipitations. Ils seront un peu plus nombreux sur l'extrême sud et du côté de Marais également. Le vent pour ce matin, orienté à l'est-sud-est, 15 nœuds voire au lieu-hôté, et sur la pointe nord-est, 15 à 20 nœuds. Cet après-midi, le temps reste sec sous un ciel passagèrement nuageux, parfois voilé en altitude toujours. L'Alizé orienté sud-est, 15 à 20 nœuds et localement un peu plus sur le sud-ouest et la pointe nord-est. Les températures, elles, sont comprises entre 23 et 27 degrés en général.
Merci beaucoup pour la météo et la technique. 7h28, c'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'info à 8h en vous souhaitant de passer un excellent dimanche, toujours à l'écoute de nos programmes.